Ben, merci beaucoup, Mélissa. Ben, vous n'avez pas totalement tort, en fait, parce que même si je suis votre enseignante, en l'occurrence, j'étudie beaucoup avec vous hein, sur cette journée. J'ai appris plein de choses. Je crois que je ne suis pas la seule. Et encore une fois, je vous félicite tous et toutes pour ce travail de grande qualité, cette belle journée. Alors justement, on va essayer d'être à la hauteur, mais on va continuer sur cette table ronde. Je suis très bien entourée, alors bien qu'à distance, non seulement les unes des autres, mais carrément sur tout le territoire français, par trois collègues que vous avez invités pour que nous discutions ensemble de responsabilité sociale et environnementale des bibliothèques. Alors, on l'a vu, hein, la notion de résilience, elle est au cœur des politiques publiques des villes en ce moment, et il nous a semblé important, au-delà des définitions et des réflexions sur l'apport que peut avoir la culture dans la résilience ou sur la définition de la culture transformée par les stratégies de résilience, de discuter directement avec des bibliothécaires, ben, peut-être du rôle des bibliothèques dans ce mouvement pour repenser la manière dont on appréhende l'avenir d'une société, puis plus généralement d'une communauté. Alors finalement, il n'a pas été si évident de trouver des bibliothèques qui affichent cette notion dans leurs documents, y compris d'ailleurs dans les exemples donnés ce matin, la notion de résilience n'est pas forcément affichée telle quelle. Alors nous avons décidé de prendre une autre sociale et environnementale des bibliothèques. Il est vrai que ça a été redit ce matin à propos de l'approche holistique, hein, dont parlait Sébastien Maire, de la résilience, qui nous emmène à penser aussi bien le rôle des institutions culturelles, le rôle social, le rôle environnemental, économique, politique, etc., pour comprendre véritablement son agence sur ces questions je dirais, d'évolution et de construction de la ville et de la communauté. Alors, pour cela, justement, pour discuter de ces questions-là, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Bobet, Mélissa Lalouette et Johanna Ouazani, que je présenterai plus en détail dans un instant. Je souhaite d'abord vous préciser que cette table ronde est organisée en deux temps. Je vais d'abord laisser chaque intervenante présenter le projet sur lequel elle travaille ou l'étude qu'elle mène, vous verrez. Puis j'animerai un échange entre nous toutes sur le thème de cette responsabilité sociale et environnementale dans et par les bibliothèques. Alors j'invite les auditeurs, puisque finalement nous faisons aujourd'hui une émission radio, bien que illustrée comme précédemment par Manouka, que je remercie encore pour son travail. J'invite donc les auditeurs à vraiment pas hésiter à réagir sur le chat. Je garderai trace de leurs questions pour les poser aux intervenantes pendant le temps d'échange. Alors je vais d'abord passer la parole à Sophie Bobet, qui est conservatrice de bibliothèques et qui dirige la médiathèque La Canopée du réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Elle a occupé avant cela le poste de directrice adjointe de la médiathèque Marguerite Yourcenar, qui est une bibliothèque spécialisée en écologie. La médiathèque verte est un des points centraux du projet d'établissement de la médiathèque Canopée et cette notion fait écho à la responsabilité environnementale et à la partie, je dirais, écologique environnementale de cette approche holistique qu'on cherche à avoir, du changement global. Et c'est un des points centraux du projet d'établissement de la médiathèque Canopée. Alors, Sophie, je vous invite à prendre la parole pour nous présenter comment se manifeste cet engagement. Je vous passe l'antenne, Sophie. Alors. J'ai perdu tout le monde.
Bon, nous sommes là, nous vous entendons, madame.
Et un petit souci technique avec Sophie, qui était là tout
Oui,
à l'heure.
Sophie Bobet a peut-être un petit souci technique. Peut-être
Alors, ce que
on
je
va
fais,
regarder
c'est
ça
que...
avec elle, peut-être qu'on peut continuer.
Voilà, ce que je fais, c'est que je vous laisse voir avec Sophie qui va nous... enfin, qui est là, hein, donc on va résoudre le petit souci. Et sans plus attendre, comme ils disent à la télé ou à la radio, du coup, je vais passer la parole à Mélissa Lalouette, qui est animatrice territoriale, qui est rattachée au département des publics et plus précisément au service de l'engagement des publics au sein de la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Elle est diplômée d'un master en muséographie et elle a exercé plusieurs fonctions de médiatrice culturelle, avant de rejoindre l'équipe des rendez-vous 4C dont elle va nous parler. Et elle nous parlera notamment de son rôle de facilitatrice de ces rendez-vous citoyens, mais qui illustre un autre volet, là, celui de la sociabilité, de la solidarité, du coup de la question sociale au cœur de la responsabilité des bibliothèques. Mélissa, si vous avez la possibilité, est-ce que vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Mélissa. Je vous entends très bien.
Ok, super. Bon, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, en quelques mots, je vais vous expliquer ce que c'est les rendez-vous 4C, pour faire vite, simple et de manière concise. Donc rendez-vous 4C, les 4C, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la créativité, collaboration, connaissance et citoyenneté, donc plein de jolis mots. Et pour résumer, en fait, bah, ces rendez-vous permettent à tout type de personnes, n'importe qui le souhaite, en fait, de se retrouver régulièrement autour d'un intérêt commun pour apprendre et faire ensemble, partager ses connaissances de manière autonome et conviviale. Donc, on est sur des rendez-vous en fait collaboratifs, ouverts à tous et gratuits, et avec des rendez-vous à la typologie multiple. Ça peut aller en fait de la conversation en langue étrangère, donc parler ensemble en italien, en anglais, en chinois, en russe, en portugais. Participer à des ateliers couture, des ateliers cuisine, d'entraide par exemple pour de la recherche d'emploi, ce genre de choses. Ça peut être donc des discussions aussi de groupes qui vont être tournées vers des questions davantage sociales, comme par exemple on a un rendez-vous qui est « Dessine-moi un ou une retraitée », donc pour des personnes qui se retrouvent et qui échangent autour de justement leur situation, leur place dans la société en tant que retraitée, et qui partagent ensemble leurs problématiques, leurs questionnements. On a aussi, par exemple, des rendez-vous autour de la collapsologie, du zéro déchet. Et on a aussi des rendez-vous de création collaborative. Par exemple, Rencraft, le club Wikipédia, donc, qui va se retrouver pour en fait, créer des articles ensemble avec des usagers qui viendraient au moment du rendez-vous autour de thématiques. Ou encore BD La Vilaine, en fait, qui est un collectif qui des personnes à créer ensemble une BD, des planches autour de la thématique de Rennes. Voilà, un petit peu pour définir ce que c'est les 4C au champ libre de Rennes.
Alors, Mélissa, merci beaucoup. On reviendra après sur un peu des détails de comment fonctionnent les rendez-vous 4C au niveau des échanges. Je vais peut-être passer la parole à alors Sophie. Est-ce que Sophie est de retour? Elle me fait dire qu'il n'y aura pas de partage d'écran parce que ça bug. Est-ce que Sophie, vous arrivez à parler, à vous faire entendre plutôt?
Pour le moment, j'ai essayé de la joindre, mais j'ai encore un peu de mal. Une fois que j'ai son numéro, je vais essayer de régler le problème technique avec elle.
D'accord, merci beaucoup. Du coup, je passe en attendant la parole à Johanna Wasani, qui est élève conservatrice des bibliothèques à l'ENSIB, de la promotion DCB29. Elle travaille actuellement à une étude de la responsabilité sociale et environnementale et de l'engagement des bibliothèques universitaires, des bibliothèques donc plus largement du monde académique. Elle va partager avec nous des éléments factuels et des éléments de réflexion sur ce mouvement de responsabilité qui touche l'enseignement supérieur et la recherche. Johanna, je vous passe la parole.
Oui, merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc voilà, pour ma part, dans cette courte présentation, j'essaierai de développer un petit peu les principales notions clés qui sont à l'œuvre dans le mémoire de recherche que Raphaël vient de présenter. Donc, pour commencer, posons quelques éléments de réflexion. Il me semble que vous avez évoqué ce matin l'importance des enjeux sociétaux et environnementaux pour l'ensemble des acteurs des territoires en contexte urbain. Et considérons maintenant, essayons de voir un petit peu ce que pourraient faire les bibliothèques universitaires qui ne sont pas exactement les acteurs auxquels on pourrait penser pour résoudre les problèmes de demain en ville, mais sur lesquels j'effectue mon travail. Et en fait, on se rend compte qu'il y a en France plus de 1,6 million d'étudiants, d'après les données du ministère de l'Enseignement supérieur, et que l'écosystème universitaire a un poids important, à la fois démographique, géographique, mais aussi économique dans les territoires. Et depuis quelques années, on constate une dynamique de responsabilisation accrue pour ces acteurs, notamment, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un cadre légal et institutionnel qui est favorable à ce que les BU se positionnent sur les questions de responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est un mouvement qui est principalement porté par les tutelles, donc les universités, et qui, au cours des 10 dernières années, je dirais à peu près, ont amorcé une réflexion sur leur propre responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de leur public, étudiants, enseignants. Et ça s'exprime chez eux par différents biais, la formation, la recherche ou la vie sur les campus, autour de ce qui s'appelle les plans verts des universités, qui ont vu le jour il y a une dizaine d'années, ou d'une forme de labellisation DDRS, qui signifie développement durable et responsabilité sociétale. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les bibliothèques universitaires ont elles aussi, dans cette dynamique, commencé à se poser des questions et à mener un ensemble d'actions avec les universités. Et donc, questionner la responsabilité des bibliothèques, qui est un peu le thème de cette table ronde, je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est un enjeu contemporain qui prend de l'importance, qui a pour objet de responsabiliser les acteurs et plus particulièrement les institutions publiques, et qui les mène à se positionner comme des acteurs exemplaires, c'est-à-dire qu'elles vont valoriser les actions qu'elles mènent pour mettre en avant une certaine attractivité. Tout cela intervient dans un espace démocratique qui laisse la possibilité pour les citoyens d'agir et de s'engager pour des causes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et enfin, le contexte aussi est celui d'une formalisation de plus en plus pointue et précise de cadres d'action. Et je pense notamment aux objectifs du développement durable de l'ONU, qui proposent à travers 17 points de modestement répondre aux plus grands défis sociétaux et environnementaux de notre époque. Et donc la France a réaffirmé son engagement dans une feuille de route qu'elle a publiée en 2019 en détaillant les principaux enjeux et indicateurs pour y accéder. Et pour revenir aux bibliothèques, il me semble que les interventions que vous avez eues ou même les choses dont vous entendez parler montrent que la bibliothèque est un acteur qui, grâce aux outils dont elle dispose, des compétences, des collections, des espaces ou de partenariats, est parfaitement capable de se positionner sur ces enjeux contemporains, d'une part en informant les publics et d'autre part en agissant sur sa propre organisation, c'est-à-dire le rapport entre les agents. Et je pense que nous pourrons revenir plus en détail sur les exemples de bonnes pratiques que j'ai pu observer, que ce soit en France ou à l'étranger, dans le second temps de cette table ronde. Mais pour citer quelques exemples, de nombreuses bibliothèques universitaires ont organisé des animations en participant à la journée du 25 septembre, des débats, des conférences, et ont également initié des changements dans leurs pratiques. Alors, les exemples qui reviennent plus souvent, ça va être la gestion des déchets, repenser le circuit du livre, etc. Et à mon sens, et je terminerai là-dessus, le nœud de la question pour les BU, plus particulièrement, se trouve dans la légitimité à agir. C'est-à-dire que parmi les freins qui ont pu être cités dans les entretiens que j'ai menés et qui trouveront sans doute écho dans d'autres établissements, on retrouve le manque de moyens, le fait que d'autres sujets soient jugés prioritaires et le manque de temps. Alors, le manque de temps et le fait que d'autres sujets soient jugés prioritaires, à mon avis, ça va de pair, c'est-à-dire que tant que les bibliothèques universitaires n'estimeront pas qu'il s'agit d'un enjeu sur lequel elles peuvent et veulent légitimement agir, des postes spécifiquement dédiés ne seront pas créés et les personnes qui s'en chargent aujourd'hui le font en général en complément d'autres de leurs missions et plutôt en s'étant auto-formés qu'en ayant suivi des formations sur le sujet. Donc ça, c'est pour, à mon avis, le fait de juger prioritaire le sujet. Et d'autre part, en ce qui concerne le manque de moyens, on pourrait juste dire que voilà, les moyens, c'est indépendant de la volonté des bibliothèques, et c'est en grande partie le cas. Mais ce qu'on peut aussi se dire, c'est qu'à travers des notions, des actions d'advocacy et de plaidoyer autour de la valorisation de la richesse des actions et de la capacité de la bibliothèque à faire se rencontrer et s'exprimer des points de vue, moi, je pense que la bibliothèque peut convaincre que ces actions ont un impact et donc qu'elle mérite plus de moyens. Voilà. Donc, je conclurai là-dessus. La question, c'est de donner aux bibliothèques les moyens de se sentir légitimes sur ces sujets sans être trop normatifs. Libre à chacune, ensuite, de se positionner sur les sujets qu'elle maîtrise le mieux ou qui lui semblent plus en phase avec leurs actions et avec les grands enjeux traversés par le territoire. Voilà pour moi.
Merci beaucoup, Johanna. Alors d'abord, je pense que vous nous avez permis de voir que la question de la responsabilité concerne bien tous les types d'établissements documentaires, hein, toutes les institutions documentaires, et pas seulement les politiques publiques municipales. Et on va échanger sur certains points dont vous avez parlé par la suite. Je regarde d'abord si Sophie a pu se reconnecter avant de...
Elle n'a pas pu encore, on va essayer de trouver une solution par Zoom.
D'accord. Je vous laisse gérer ça pendant ce temps-là.
Oui, bien sûr.
Je poursuis les questions avec Mélissa et Johanna. Alors, je voulais qu'on revienne un peu sur les questions de concept. Johanna, vous avez dit, oui, les bibliothèques bénéficient aujourd'hui de cadres du type... l'agenda 2030 de l'ONU auquel vous avez fait référence, qui je pense est maintenant assez bien connu par les bibliothèques. Je me demandais si dans les bibliothèques que vous avez étudiées, au fond, quels étaient les concepts qui étaient utilisés dans les documents cadres des bibliothèques pour, je dirais, donner un cadre à cette responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de résilience. Est-ce que ce terme de résilience se rencontre ou est-ce qu'on trouve vraiment d'autres notions? Alors, Agenda 2030, mais on a parlé aussi ce matin de durabilité, donc de développement durable peut-être. On a parlé d'anthropocène, on a parlé de changement global, etc. Alors, est-ce que vous avez remarqué l'usage de certaines de ces notions structurantes pour les bibliothèques et lesquelles?
Alors, dans l'étude que j'ai menée, parmi les termes que vous avez cités, les notions de résilience ou de changement global apparaissent assez peu. Ce qu'on constate, c'est que quand l'université a structuré une politique autour du développement durable et ou de la responsabilité sociétale, en fait, c'est vraiment ces deux mots qui sont le plus souvent utilisés par les universités, alors certaines bibliothèques les réutilisent. Mais elles se positionnent toujours dans la lignée de ce que la tutelle a commencé à mettre en œuvre, en fait.
Mélissa, pour votre part, comment ça se passe au niveau de Rennes en général et de la ville de Rennes en particulier et de la bibliothèque de Champs-Libre encore plus en particulier autour de ces notions? Est-ce que vous rencontrez ces notions de résilience, agenda 2030, développement durable, anthropocène, etc.? Est-ce que vous les mobilisez? Comment ça se passe?
Alors moi, à mon échelle, non, on n'en a pas, enfin on n'a pas écho de ce genre d'éléments. Et ça, malheureusement, en fait, ça, c'est plus des questions, tout ce qui va être résilience et tout ce qui est politique urbaine, des notions qui sont traitées bah, soit par le directeur du coup de la bibliothèque, donc Malik Diallo, ou alors à l'échelle donc des Champs Libres, de Corinne Poulain, qui est la directrice des Champs Libres. Donc à notre échelle, enfin à mon échelle, pour l'équipe en tout cas des 4C et un peu plus de la bibliothèque, c'est pas des questions auxquelles en tout cas on a affaire ou qu'on nous demande de traiter ou qu'on rencontre dans des dossiers ou autres comme ligne directive.
Est-ce que ça veut dire qu'au fond on fait de la résilience sans le savoir?
Peut-être, oui. C'est effectivement, oui, ça peut être, c'est possible. J'imagine, oui.
Johanna, vous diriez ça des établissements que vous avez rencontrés, qu'il y a une forme au fond de pratique, de stratégie de résilience ou de mise en œuvre de politiques internes parfois qui peuvent accompagner des stratégies de résilience mises en œuvre au niveau de l'université?
Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en termes de formalisation et de vraiment utiliser les concepts et les notions clés en les associant à des actions qui sont menées dans un cadre général, je dirais que c'est vraiment ça qui manque aujourd'hui aux bibliothèques universitaires. Et pour, par exemple, le développement durable, les objectifs du développement durable, il y en a donc 17 et ça couvre des champs très vastes. Et en fait... ça va sûrement être utilisé comme exemple pour tout ce qui concerne l'environnement. Mais on va distinguer, on va le voir au sein des universités ou des bibliothèques universitaires, on va distinguer les questions d'égalité homme-femme, par exemple, ou de handicap. Ça ne va pas rentrer dans le développement durable, en termes de communication, j'entends. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir la façon dont chacun s'approprie les termes ou non. Et du coup, ça rend un petit peu plus difficile, peut-être, pour les publics, la lisibilité des actions menées par les bibliothèques.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, peut-être je vais vous demander de nous parler d'un cas en particulier. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la bibliothèque universitaire de Laval comme cas d'étude. Je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs d'entendre de cette bibliothèque qui s'est saisie véritablement, je dirais, d'une stratégie de l'université pour en faire un projet tout à fait bibliothéconomique sur ces questions de responsabilité sociétale et environnementale. Je vous laisse présenter ça.
Oui, d'accord, tout à fait. Alors, effectivement, je suis tombée sur l'exemple de l'Université de Laval, qui est donc une université canadienne proche de Montréal, et qui a mis en place un plan de développement durable depuis les années 2010. Donc, c'est à peu près équivalent au mouvement qui a vu le jour en France. Cependant, ils ont structuré leur action différemment. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu une volonté politique menée par la présidence de l'université de mener une réflexion sur le développement durable. Ce qui a compté dans cette réflexion, c'est l'attachement à l'environnement immédiat de l'université. Donc, il y a une forêt à proximité, il y a un campus. Alors, c'est un campus à l'américaine, donc c'est-à-dire que tout est en interne. Et donc, en termes d'impact environnemental, c'était plus facile pour eux d'avoir une vision sur l'ensemble de leurs émissions, sur l'ensemble de leur réseau de transport, la mobilité, les résidences, etc. Et donc, c'est en raison de la proximité et de l'importance attachée à l'environnement, c'est une réflexion de développement durable qui s'est orientée vers la question environnementale. Et en fait, la présidence a mis en place des groupes de travail pour que chaque service puisse mener une réflexion sur le coût de ses activités. Donc là, on a un aspect économique qui a été rapidement mis en avant et sur l'impact environnemental. Et donc, on voit une volonté ici d'intégrer rapidement et concrètement les personnels en les faisant réfléchir sur eux-mêmes dans l'université. Et à partir de ça, il y a eu une mise en place d'objectifs concrets et d'indicateurs sur 3 ans. Donc, il y a eu plusieurs phases et où il a été demandé à chaque service de faire remonter des indicateurs et d'exprimer en fait les actions sur lesquelles il pouvait agir. Donc moi, j'ai échangé plus particulièrement avec la bibliothèque qui a consacré en fait du temps, des moyens à réaliser un ensemble d'actions. Alors, dans le dernier rapport, ils en citent 7. Et parmi lesquelles, je peux vous en citer une ou deux, il y a évidemment la programmation culturelle, puisque ça, c'est un des points importants de l'utilisation des espaces. Mais il y a également, dans le cadre de la diminution des serveurs, il n'y a plus aucun serveur physique pour la bibliothèque, mais ils n'utilisent que des serveurs virtuels. Et ils ont également participé au développement d'une application mobile pour aider les usagers à localiser les documents. Et donc, ils sont montés en compétence sur des sujets informatiques avec le développement numérique en intégrant les problématiques environnementales et en menant des projets qui leur étaient propres au sein de leur bibliothèque et qui après constituaient un ensemble d'actions réalisées à l'échelle de l'université. Voilà.
Ouais, c'est tout à fait fascinant et j'invite nos auditeurs à aller voir ce que fait Laval en termes de l'université de Laval hein, sur ces questions-là, qu'on soit en bibliothèque universitaire ou territoriale ou même en bibliothèque scolaire. On vous mettra les liens. Et notamment, vous parliez, Johanna, de l'animation culturelle. L'université de Laval s'est dotée d'une sorte de fiche, de labellisation de journées d'études, ou de conférences ou de colloques responsables. Voilà. Et je crois aller voir ça parce que je pense que ça peut être un outil utile pour nombre de bibliothèques qui veulent avoir des critères en fait de labellisation et de reconnaissance de la responsabilité de la bibliothèque sur certains axes. Alors, Mélissa, je reviens vers vous à propos des 4C. Vous avez donné des exemples qui sont tout à fait qui rentrent en écho avec des choses qui ont été dites auparavant. Vous avez parlé des conversations en langue étrangère. Je sais que dans ces, notamment à l'atelier parents-enfants autour de la langue espagnole, on a beaucoup de gens qui viennent en fait de pays hispanophones et qui se rencontrent là avec leurs enfants pour leur transmettre aussi leur langue, etc. Vous avez parlé d'entraide emploi, du zéro déchet, de dessine-moi un ou une retraitée. Tout ça, ce sont des questions qui sont aussi des questions relatives à la politique de la ville. Et du coup, je me demandais comment les rendez-vous 4C ou le département dont les rendez-vous 4C, auquel le rendez-vous 4C est rattaché, comment vous discutez avec la ville et avec ses projets sur ces différentes questions, la question des migrations, on peut dire, hein, je ne parle pas forcément des réfugiés, mais des flux migratoires en général, la question des seniors, la question de l'emploi et du chômage, la question écologique avec le zéro déchet, etc. Est-ce qu'il y a des échanges entre la bibliothèque qui agit sur ces questions-là, qui relève totalement de certains objectifs de développement durable de l'agenda 2030, et la ville qui met en œuvre des politiques sur ces mêmes champs.
Alors, il n'y a pas, en tout cas pour rapport au 4C, il n'y a pas forcément de lien, de discussion avec la ville sur ces rendez-vous-là. Nous, ça nous arrive en fait en fonction des sujets. Par exemple, s'il y a certains rendez-vous 4C qui font écho au niveau de la programmation des champs libres, on va pouvoir en fait proposer à ces rendez-vous-là, si certains veulent participer, être justement, en fait, on va mettre en lien les rendez-vous avec justement une programmation et peut-être du coup mettre voilà, un peu en lumière ces rendez-vous-là. Après, on est vraiment, comment dire, sur les rendez-vous 4C, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu en niche dans les champs libres. Donc, ils sont déjà aussi pas que portés par la bibliothèque, mais aussi par le musée de Bretagne, donc qui fait partie en fait de cette entité des champs libres. Il faut savoir que les champs libres sont composés du musée de Bretagne, donc un musée sur l'histoire de la Bretagne, d'un espace des sciences, donc un peu à part parce qu'ils sont en fait une association, donc leur fonctionnement diffère un peu du reste des champs libres, et du coup de la direction des champs libres. Et donc nous, en fait, on est trois coordinateurs avec les 4C, et moi qui représente la bibliothèque, et mes collègues, donc Manuel Moreau et Samuel Bosson, qui représentent respectivement donc, le musée de Bretagne et la direction des champs libres. Donc en fait, c'est vraiment les 4C sont vraiment faits dans une petite niche. Au fur et à mesure, bah, ça a pris de l'ampleur. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas forcément de correspondance avec les politiques de la ville, en tout cas à l'échelle des 4C. Mais quand c'est possible, en fait, comme je vous le disais, en fait, on va essayer de mettre en lien certains rendez-vous avec la programmation et faire une mise en valeur un peu pour donner de l'exprès, comment dire, oui, donner la voix en fait au rendez-vous un peu plus largement. Après, à plus petite échelle, par exemple, pour le rendez-vous dessine-moi un ou une retraitée, celui-ci en fait avait été sollicité donc par la bibliothèque pour aider justement à la rédaction d'un document pour l'accueil justement des publics âgés et retraités au sein des bibliothèques. Donc c'est comme ça qu'il y a une forme d'entraide sociale, mais qui reste pour l'instant plus à l'échelle soit d'une ou de plusieurs entités des champs libres, soit à l'échelle des champs libres. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Vous avez tout à fait répondu, et c'est très clair. Alors, on reviendra du coup sur peut-être ce qui se dessine en creux aussi, c'est peut-être que les bibliothèques, et ça a été mentionné aussi par Johanna, souffre peut-être d'un déficit de visibilité au niveau des politiques publiques sur le rôle qu'elles peuvent jouer et qui demanderait peut-être un développement de compétences en plaidoyer. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais moi je suis très marquée par ce que vous venez de dire, la manière dont finalement un atelier qui se fait avec des usagers, donc des publics, là, dessine-moi un ou une retraitée, qui va avoir un impact sur un service public directement. Et là, je trouve qu'on est effectivement dans des processus de, sinon de résilience, en tout cas de care, qui sont vraiment, vraiment importants. Alors, Sofiane me dit dans l'oreillette que normalement, Sophie doit pouvoir intervenir via le micro de Sofiane. Alors, est-ce que on est bon ?
Allez-y. Donc, oui, bonjour.
Bonjour Sophie. Sophie.
Oui.
Oui.
Donc j'ai la parole là, c'est bon.
Oui, on va mais le micro.
Donc je peux parler, voilà. Ça y est. Bon, donc pour présenter le projet de la médiathèque de la Canopée La Fontaine, qui fait partie donc du réseau des bibliothèques de la ville de Paris, déjà il faut présenter l'ancrage territorial dans lequel se situe notre établissement. On est en plein cœur d'un centre commercial, hein, Westfield de Léal, au-dessus d'un hub de transport qui dessert 850 000 personnes par jour, et nous accueillons de ce fait des publiés entre 4 et 5 000 personnes par semaine, en temps hors Covid, bien entendu. Et notre politique documentaire, bien sûr, a été conçue en lien avec ces publics, donc axée sur l'actualité, la détente et les loisirs et les cultures urbaines. Nous avons aussi un fonctionnement en groupe transversal au-delà d'un organigramme classique avec 21 ETP et 45 000 documents. Et nous avons effectivement un public nombreux puisque nous avons fait plus de 210 000 entrées en 2019. Alors, c'est important de présenter un peu le contexte parce que nous sommes une bibliothèque de taille moyenne pour la ville de Paris, 1060 mètres carrés, et cette médiathèque qui était récente, finalement, pourrait passer dans un établissement qui se veut écologique pour un établissement modèle. Et en fait, très rapidement, dans l'équipe, on s'est rendu compte de choses qu'on pouvait améliorer. Et donc, notre politique est d'abord celle d'un projet d'équipe qui est apparu dès 2018 avec la volonté d'avoir des pratiques professionnelles ou internes de la vie à vie bureau qui soient beaucoup plus écologiques et plus vertueuses. Et donc, on a créé lors du projet d'établissement de 2019-2021, un axe dans notre bibliothèque qui était un axe bibliothèque verte piloté par Alice Armagnac qui est chargée de son documentaire. Et nous avons été candidat très rapidement pour participer au groupe de travail lancé par la DAC dans le cadre justement de l'adoption du plan économie circulaire en 2017 et notamment de la deuxième feuille de route de 2018 qui portait sur l'axe 7 en lien avec tout ce qui était le secteur culturel, mais notamment les musées dont on parlait précédemment. Ça nous a intéressé non pas de travailler sur le côté exposition éco-responsable, même si dans les bibliothèques nous accueillons des expositions, mais de reposer la question de notre particularité liée au circuit du livre. Et donc, nous avons participé à ce groupe de travail qui réunissait une quarantaine d'établissements sur la ville avec un opérateur Arter qui nous accompagnait dans cette réflexion et qui a donné lieu à plusieurs groupes de travail. Donc, nous étions avec des bâtiments comme la Gaîté Lyrique ou la Maison des Métallos, mais qui finalement, dans des problématiques telles que le bâtiment, telles que les marchés d'équipement pour du mobilier, telles que la restauration quand on fait un vernissage ou qu'on fait un café convivial, peut poser aussi des questions communes. Et donc, nous avons collaboré à ce qui va donner lieu à un livret culture et économie circulaire qui doit être présenté très prochainement par Karine Roland, adjointe à la culture, et Florent Letissier, qui est adjointe à l'économie circulaire sur la ville de Paris. Donc, pour revenir sur la médiathèque, je vous ai parlé d'un engagement d'équipe. C'était également des collections, bien sûr, puisque la bibliothèque, c'est d'abord des fonds que l'on vient emprunter, et surtout en temps de Covid, on se rend compte de cette importance-là. Donc, dans le cadre de notre politique documentaire axée sur l'actualité, on a créé un fonds écologie avec un logo propre. On avait aussi une programmation culturelle et des services en lien avec ça, donc des programmes de conférences sur différents thèmes comme accueillir l'affaire du siècle, avoir des ateliers pédagogiques sur le recyclage avec différents partenaires, des expositions, des opérations de sensibilisation, etc. Et surtout, suite à cette réflexion interne et à cette participation à ce groupe de travail, nous avons décidé de mettre en place un système de management environnemental et donc nous avons accueilli pendant 5 mois en 2020 une élève en master 2 management public, démarche qualité et risques sociétaux, Aurore Tessa, qui est venue faire une étude de terrain pour la pratique professionnelle de notre environnement professionnel et donc, on a lancé ce plan SME en septembre dernier. Et parallèlement à ça, nous avons accueilli une élève conservatrice de l'ENSIB, Florence Coll, qui s'intéressait, elle, au volant usagé, parce qu'on ne peut pas concevoir une politique, même si elle s'inscrit dans la politique de résilience de la ville de Paris, et ça a été évoqué ce matin, sans y associer nos publics dans un esprit de co-construction. Et donc, nous avons commencé une première enquête quantitative qui était assez intéressante, puisque nous repartions des 17 points présentés à l'agenda 2030 sur le développement durable. Et nous avons proposé tel quel à nos publics, donc avant le deuxième confinement, et de façon à voir quels étaient pour eux aussi les enjeux de résilience, ce à quoi ils avaient envie de se retrouver confrontés dans, au sein d'une bibliothèque. Et nous avons commencé à faire des focus group avec des usagers et en interne pour voir en fait quels seraient des axes sur lesquels on pourrait s'engager avec eux dans un esprit de co-construction. Voilà, donc deux points. D'un côté, une politique interne qui s'inscrit en fait comme dans un axe de convergence avec une politique municipale, mais qui a pu précéder, puisque c'est arrivé que nous soyons finalement, que nous anticipions la politique avant qu'elle nous soit demandée. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu faire le point sur
l'expérience. Merci beaucoup Sophie, c'est tout à fait intéressant comme témoignage et puis comme pratique en général de la bibliothèque. Alors j'ai peut-être une première question, en plus vous venez de me donner la transition parfaite en parlant de cette convergence entre finalement votre politique interne bibliothéconomique et la politique municipale. On a bien compris que vous avez participé à un groupe de travail municipale sur l'économie circulaire et culturelle, puis vous dites aussi que d'une certaine manière la bibliothèque avait parfois de l'avance en fait sur des injonctions municipales. La question que je me pose, c'est comment se passent ces échanges, c'est-à-dire est-ce que vous avez trouvé facilement votre place là-dedans, est-ce qu'il a fallu développer une forme de plaidoyer pour convaincre les acteurs municipaux que la bibliothèque avait véritablement un rôle à jouer. C'est vrai que quand on pense économie circulaire, on ne pense pas tout de suite la bibliothèque. Comment vous avez développé, je dirais, ce plaidoyer dont qu'on avait commencé à évoquer avec Mélissa et Johanna? Est-ce que vous avez une particulière? Comment vous avez travaillé sur cette question de la reconnaissance du rôle de la bibliothèque au sein de l'équipe municipale, je dirais?
Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ces axes-là, même auparavant sur mon ancien poste, puisque avec mon équipe de l'époque, on avait porté le projet de Grénothèque sur le réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Et là, on avait eu l'accord non pas de nos collègues professionnels, c'était plutôt les bibliothécaires qu'il fallait convaincre de l'utilité de ce nouveau type de service hein, basé sur le troc, et puis avec une visée qui était de rendre conscients les citoyens de leur environnement et de s'en emparer. Là, nous avions eu le soutien du politique, pas des collègues tout de suite immédiats, mais du politique. Et puis, les pratiques finalement inspirent d'autres collègues, s'en emparent, ça devient un service finalement commun. Et nous, on était toujours vigilants sur les actions politiques qui étaient menées dans lesquelles on pourrait s'inscrire. C'est pour ça que je parlais plutôt de convergence, c'est-à-dire que nous, on s'intéressait à l'écologie avant qu'il y ait finalement la feuille de route DAC, mais dès qu'on en a eu connaissance, on a plaidé pour être candidat, pour faire partie de ce groupe de travail qui rassemblait pour l'essentiel des lieux de spectacle et de spectacle vivant et avec une petite collaboration de certains musées. Mais nous, on était à part et en même temps, comme on était déjà convaincus du bien fondé de notre rôle et de notre place, on a pu convaincre aussi, et on a eu la chance, la personne de Lucie Marinier qui est chargée de mission à la DAC et qui est chargée de ce type de questions, justement d'avoir un appui. Et je pense que maintenant, ça deviendra évident. On nous a demandé d'être pilote sur le réseau de la ville de Paris. On a des propositions de RSE sur le réseau de la ville de Paris. Ça deviendra évident que les bibliothèques ont un rôle majeur à jouer.
Et merci, merci Sophie pour ce complément. Je vous pose une question que j'ai posée aussi aux collègues déjà pendant qu'on n'arrivait pas à vous joindre sur cette notion de résilience. Alors vous l'avez dit, hein, et puis ça a été dit précédemment avec Sébastien Maire et Chloé Voisin-Bornut l'avait évoqué aussi. Il y a un plan de résilience alors en cours ou en cours de construction à Paris. Est-ce que vous, dans votre projet d'établissement, dans la manière dont vous avez pensé vos axes, la politique interne, etc., vous vous êtes saisi de cette notion de résilience? Est-ce qu'elle a eu un intérêt pour vous, ou est-ce que vous avez travaillé à partir d'autres notions et lesquelles? Alors, par exemple, l'agenda 2030, développement durable, anthropocène, changement climatique, etc., etc. Qu'est-ce qui fait pour vous notion ou outil structurant?
Alors nous, au départ, c'était vraiment l'agenda 2030, le côté écologie, pas forcément développement durable dans toutes ces acceptions. C'est pour ça que là, on est en train de réorienter, parce qu'on s'est rendu compte que l'attente de nos usagers allait vers ça. Pour parler de l'enquête qui a été réalisée par Florence Kohl, l'écologie arrive en quatrième point, en fait. Ce qui nous a un peu surpris, puisque les trois points qui sont ressortis de manière saillante dans l'enquête, c'était le premier, l'éducation tout au long de la vie, mais qu'on attend aussi d'une bibliothèque, et surtout en période de crise. Le deuxième point, c'était le bien-être et la santé, mais là encore, on est en contexte de pandémie, donc ça a forcément un impact sur les réponses. Et le troisième point, c'était l'égalité homme-femme. Et ça, c'est pas forcément un axe, même si ça fait partie de notre programmation culturelle aussi, auquel on aurait pensé naturellement. Donc on va aussi... à nos usagers, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est pas simplement le politique qui va nous déterminer, même si pour nous, ce sont des appuis, des soutiens, et étant agent public de la ville de Paris, on ne peut que s'inscrire dans l'axe de mandature de la maire de Paris. Mais, en fait, ce qui nous intéresse, nous, d'abord, en tant que bibliothécaires, c'est aussi les attentes, les services qu'on peut proposer à nos usagers en réponse à leurs demandes ou anticiper par rapport à des évolutions sociétales. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai tout à fait bien répondu, mais voilà, c'était d'abord l'agenda 2030 et la résilience, le plan résilience de la ville de Paris vient en second plan.
Si, merci beaucoup, et ça fait tout à fait écho à des, alors, d'une part, à des choses qui ont été dites précédemment, notamment sur la question de la définition collective de on en a parlé ce matin avec Chloé Voisin-Bornut, peut-être pas du choc, mais en tout cas de l'onde de choc, quoi. Et du coup, je voudrais revenir justement sur cette question du rapport au public. Je note avec grand intérêt la manière dont les rendez-vous 4 révèlent les choix des personnes qui créent les groupes, révèlent aussi où se situe l'onde de choc actuellement des différentes crises qu'on croise. Peut-être, Mélissa, vous pouvez nous parler de comment se décide, par exemple, le groupe Entraide d'emploi, le groupe Dessine-moi une retraitée, le groupe Collapsologie, le groupe Zéro Déchet. Qui est à l'origine de ces ateliers, en fait? Est-ce que c'est la bibliothèque qui dit tiens, si on réfléchissait là-dessus? Est-ce que ce sont les publics qui viennent dire à la bibliothèque au fait, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Alors en fait, la constitution des groupes, elle, se fait vraiment à la demande des usagers. Nous, on est sollicité par des personnes qui viennent nous voir en fait en tant que coordinateur 4C et qui nous disent bah moi en fait j'aimerais bien constituer un rendez-vous autour de tel ou tel intérêt. Et en fait, bah, c'est comme ça que tout commence. Nous, on met juste en fait quelques lignes directives pour pouvoir instaurer un rendez-vous. En fait, on est parti du principe que bah, il faut être au moins trois pour pouvoir constituer un rendez-vous. Donc, il n'y avait pas qu'une seule personne qui initie. Donc, qu'elle connaisse déjà d'autres personnes qui partagent en fait son intérêt commun. Et qui ont envie de le partager avec elle et de créer ce rendez-vous-là. Donc voilà, qu'il y ait au moins trois personnes, que l'envie de ce rendez-vous soit partagée par tous. Et à la suite de ça, en fait, on prend rendez-vous avec ces initiateurs de futurs rendez-vous 4C. Et donc il y a au moins un coordinateur qui est présent pour pouvoir aider au début à initier ce rendez-vous-là. Et si possible, en fait, on invite également une autre personne qui fait déjà partie d'un autre rendez-vous 4C. En fait, c'est un peu un compagnon qu'on appelle ça, parce qu'on a différents rôles aussi qui sont attribués dans les rendez-vous. Et donc, ce rôle du compagnon-là, en fait, il va partager son expérience avec la personne qui veut initier un nouveau rendez-vous. Et donc, elle va en fait l'aider aussi à initier son rendez-vous. Donc, il y a vraiment en fait bah, une mise à profit de l'expérience et tout ça. Et après, on détermine avec la personne qui veut initier, là où les personnes qui veulent initier un nouveau rendez-vous, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment faire, déterminer des points en fait clés. Si ça va être, bah, par exemple, jouer, échanger, quelque chose autour de la discussion, si on va être autour de la convivialité davantage avec, par exemple, la notion d'un goûter, si on est plus dans la création, par exemple, créer quelque chose, parce que tout à l'heure, je parlais de la couture ou d'autres choses. Et en fait... Donc, on va petit à petit instaurer en fait une dynamique de coopération dans le fonctionnement du groupe, voilà, avec déterminer donc qu'est-ce qu'on veut faire dans ce groupe-là. Et à la suite de ça, il y a d'autres mécaniques qui se mettent en place, rédiger en fait un petit texte avec le groupe pour définir en fait qu'est-ce que ce rendez-vous-là. Et à la suite de ça, il y a aussi quand le groupe est plus ou moins construit, au bout de 3 mois à peu près, la création d'un logo qui en fait vraiment officialise en fait le rendez-vous. Et en même temps, nous, ça nous permet bah, de communiquer, donc plus là dans une logique voilà, de communication sur les réseaux ou sur le site des Champs Libres ou sur le blog des 4C. Donc avoir en fait un peu une imagerie 4C. Donc voilà.
Alors, merci beaucoup Mélissa. Je trouve assez intéressant de voir comment différemment vos deux exemples illustrent la manière dont la bibliothèque peut être à l'écoute de la perception et des ressentis des concitoyens sur ce qu'ils vivent et ce que c'est qu'habiter le monde, comme on dit. Donc, à la canopée via cette enquête de public, les focus groups, etc. Vous, à travers l'ouverture à la décision d'ouvrir des ateliers, etc. Peut-être je me tourne du coup vers Johanna pour vous demander comment ça se passe dans les universités, dans les bibliothèques universitaires ou académiques, la relation, je dirais, avec les public, donc que ce soit les étudiants, peut-être les enseignants-chercheurs, mais peut-être plutôt avec les étudiants. Est-ce qu'il y a des modes de consultation des étudiants ? Est-ce qu'il y a une parole des étudiants aussi sur ces sujets relatifs au champ d'action de la responsabilité sociale et environnementale ? Comment se passe le dialogue sur ces besoins et ces attentes ?
Alors, de ce que j'ai pu voir, mené directement par la bibliothèque, j'en ai pas vraiment vu. En revanche, récemment, il y a une étude qui a été publiée par le REFED, donc sur les attentes des étudiants vis-à-vis des questions environnementales, plus particulièrement. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que en fait, les étudiants considèrent que la direction et l'administration sont seulement à 17% attendu pour mener des actions dans ce domaine contre 48% pour les associations étudiantes. Et en fait, je trouve que ces chiffres illustrent bien que c'est les associations qui ont le plus d'importance pour résoudre toutes les problématiques des étudiants. Et ce que ça montre aussi, c'est que les étudiants en fait sont prêts à s'engager d'une manière ou d'une autre, mais qu'ils l'attendent pas de l'institution. Et c'est intéressant parce que cette étude, elle est récente, puisqu'elle vient de sortir là en septembre. Et pourtant, c'est pas par rapport à la dynamique dont on a parlé tout à l'heure, qui a une dizaine d'années. On voit qu'il n'y a pas de lien en fait entre les programmes qui ont été menés par les universités, etc., et ce chiffre de seulement 17%, et qui se situe d'ailleurs après la réponse je ne sais pas à 20%. Donc c'est aussi intéressant à voir. Après, ce que j'ai juste pour ajouter, les besoins des étudiants à travers des questionnaires ou des enquêtes, etc., c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années dans les bibliothèques universitaires. Et donc je pense que rajouter des questions sur ces sujets-là c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ce qui se passe pour le moment, c'est plutôt de manière informelle. J'ai échangé notamment avec quelqu'un qui travaille à la bibliothèque de Sciences Po, où les étudiants vont faire remonter des besoins, mais ponctuellement, en allant dire par exemple que le chauffage est trop élevé ou qu'il faudrait des fontaines à eau, etc. Mais ça ne se fait pas encore de manière très structurée pour ce que j'en ai vu.
Alors, merci Johanna pour ces éléments complémentaires. Peut-être on peut passer à un autre élément. Je vais reprendre quelque chose qu'a dit Sophie à propos du système de management environnemental et qui relève au fond de quelque chose dont on a parlé précédemment aussi, qui est le besoin d'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue finalement notre impact, que ce soit l'impact environnemental, que ce soit l'impact social, etc. Alors, je vais peut-être, Sophie, vous laisser la parole pour nous expliquer un peu peut-être ce système de management environnemental, à la fois peut-être comment il se fabrique, et puis quels indicateurs vous avez retenus, si vous en êtes déjà là du processus, ou quelles sont les prochaines actions qui vont se mettre en place.
Alors, effectivement, la réflexion autour de la mise en place d'un système de management environnemental s'inspirait déjà d'une application concrète qui avait lieu à la mairie du deuxième précédemment. Donc, on a pu avoir un retour d'expérience sur l'effort que ça allait représenter pour l'ensemble de l'équipe et sur les différents interlocuteurs, puisque c'est effectivement à la croisée de plusieurs directions. Donc, d'abord, savoir que le SME repose sur une norme ISO 14001 nous avons eu besoin effectivement d'une expertise dans ce domaine pour pouvoir savoir ce que ça allait recouvrir et notre stagiaire a permis de faire déjà un état des lieux de notre bâti, de nos pratiques professionnelles comme je disais tout à l'heure et une planification pour voir comment on pouvait mettre en place un plan d'action prioritaire à l'image de ce qu'on fait quand on fait un plan de prévention des risques ou quand on met en place une labellisation pour notamment Paris, pour quel Paris. Il fallait déjà faire le point sur ce que ça représentait en termes, parce qu'on a pu choisir aussi le bilan carbone, mais c'est pas le parti qu'on a pris. Donc il fallait déjà voir quels étaient les impacts environnementaux les plus significatifs pour notre institution médiathèque et qui a trois donc avec une qualification et une notation des risques hein, de peu impactant à gravité potentielle donc trois se sont dégagés: la gestion des déchets quotidiens, la certification des ouvrages prêtés et enfin la gestion des documents désherbés, donc là qui interroge le circuit du livre et notamment la fin de vie des livres. Le problème pour nous, c'était également comment mettre en place des actions pour ces trois aspects sur lesquels on n'a pas forcément la maîtrise. On rejoint forcément le politique parce que on ne pourra pas, même s'il y a des attentes, j'entends bien par rapport aux universitaires et des étudiants qui peuvent dire voilà, nous on voudrait le chauffage soit moins important, en fait Une fois que c'est remonté au niveau de la direction, ça ne dépend pas que de la direction, ça va dépendre des services techniques, ça va dépendre d'un certain nombre de bâtiments. Et nous, pour la canopée, comme en plus on est dans un centre commercial, on a un environnement qui est spécifique puisqu'on a une maintenance qui est déléguée pour partie à Westfield. Donc il y a tout un dialogue à mener sur ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et à quelle échéance on peut le faire. Pour la classification des ouvrages, en revanche, là, on avait beaucoup plus la main, d'autant plus qu'on a le soutien de notre hiérarchie. Et donc, on a lancé un test sur un an de d'équipement ou de non-équipement après avoir déterminé une typologie de documents type. Et donc, nous faisons un suivi avec prise de photos à chaque fois que nous prêtons un document de façon à évaluer effectivement si ça vaut le coup de classifier ce document pour augmenter sa durée de vie, surtout qu'on a des documents qui sont multi-empruntés, ou bien si on peut se contenter de l'équipement basique qui est proposé par l'éditeur. Donc voilà, cette réflexion va nous permettre aussi de proposer un autre type d'équipement plastique qui soit moins nocif pour l'environnement, puisqu'il y a de nouveaux produits qui existent sur le marché. Donc là, on sensibilise notre direction des marchés pour que cette clause environnementale soit prise en compte dans l'achat. Et de même, ça c'était une autre réflexion qui n'entre pas là dans notre SME, mais qui en fait partie, la possibilité d'utiliser du mobilier récupéré ou de réparer notre mobilier lorsqu'il était abîmé et ne pas avoir que la solution déchets remplacement. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on a la main. Et quant à la gestion des documents désherbés, donc là, qui est une vraie problématique professionnelle, nous avons mis en place un certain nombre de... Enfin, nous avons proposé à notre direction plusieurs propositions, mais là, dans ce cas, on ne peut pas être tout seul. Et c'est pourquoi on devra passer à au niveau du réseau avec un groupe de travail pour pouvoir tester sur plusieurs bibliothèques et voir quel est l'intérêt. Et effectivement, de ce fait, les usagers seront associés puisque ça voudra dire favoriser peut-être le dépôt auprès des associations encore plus qu'il n'est fait aujourd'hui pour réduire la part de destruction propre des documents.
Alors, merci beaucoup, hein, Sophie. C'est vraiment très clair et puis très 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 intéressant. J'invite nos auditeurs à aller consulter le blog de la médiathèque de la Canopée où on retrouve des articles sur ce SME, donc ce système de management environnemental qui, je pense, en inspirera plus d'un ou plus d'une. Peut-être, je reviens vers Mélissa. Est-ce que de votre côté, vous avez mis en place des jeux d'évaluation de l'impact des rendez-vous 4C. Est-ce qu'il y a des indicateurs, alors que ce soit des statistiques ou peut-être des retours narratifs des usagers, je ne sais pas, qu'est-ce qui nourrit peut-être l'évaluation de l'impact de ces rendez-vous ? Je vous laisse la parole.
Oui, alors déjà au niveau statistique, nous, alors avec nos petits carnets, en fait, on a évalué chaque année, on comptait en fait le nombre de personnes. Alors au début, hein, pas après, on était à plus ou moins à la louche, mais le nombre de rendez-vous qui se constituaient donc chaque année. Donc ça, on a un suivi en fait vu qu'on est chacun, on s'est attribué un rendez-vous. En tant que coordinateur être en dialogue avec eux. Donc on comptabilise en fait chaque année le nombre de rendez-vous qui augmente. En fait, on a remarqué que entre 2014, donc septembre 2014, les premiers rendez-vous qui ont commencé au champ libre jusqu'à l'année 2019-2020, on est passé de 11 rendez-vous à 28. Au début au niveau des personnes donc des rencontres qui se faisaient sur l'année au niveau de la récurrence de ces rendez-vous là on est passé de 84 rencontres en 2014-2015 à un peu plus de 320 rencontres sur l'année, donc avec des rendez-vous parfois qui sont une fois par mois, deux fois par mois ou chaque semaine, et on est passé à peu près de comment dire, de 31 participants par semaine au rendez-vous à donc avant le Covid, donc année 2018-2019, on était à 130 participants par semaine en moyenne. Et donc là, avec l'année du Covid, on a rebaissé à peu près 100 participants, mais on a toujours nos rendez-vous, donc qui ne se sont pas forcément, qui ont arrêté de se retrouver sur site en fait, mais qui ont continué en ligne. On a mis un dispositif en fait en place avec Jitsi. Et on a accompagné les rendez-vous pour qu'ils puissent voilà, se retrouver donc, en ligne. Donc là, on a vraiment des chiffres en fait, qui concrétisent bah, que le projet 4C, bah, il est en augmentation croissante en fait, continuelle et qu'il a, il a pu continuer même avec le Covid. Et aussi, bah, on a en fait, on voit un impact du projet 4C bah, sur l'ensemble des champs libres, déjà parce que nous, on essaye de déployer les rendez-vous 4C à l'ensemble des entités champs libres, donc comme je l'ai dit aussi avec le musée de Bretagne et donc moi, je parle pour la bibliothèque, mais du coup, avec le musée de Bretagne, la bibliothèque et les champs libres. Donc, par exemple, bah, ça va être que ce que les rendez-vous ne se déroulent pas, enfin, les rendez-vous, ils se tiennent dans chacune des entités. Donc, il y a certains rendez-vous qui vont se retrouver au musée de Bretagne, donc d'autres dans la bibliothèque, par exemple. Là, on est aussi en fait en train de participer et on a été sollicité donc par la direction des champs libres pour en fait. À la réflexion sur la rénovation du hall des champs libres, donc vraiment là, le lieu où dès qu'on rentre dans les champs libres, le lieu que les publics voilà, sont obligés de passer par. Et en fait, on fait partie donc, du groupe de travail de cette rénovation du hall pour en fait en faire une place publique. Et nous, on a envie d'initier en fait à ce que des personnes bah, se donnent rendez-vous sur cette place-là. Donc, ce serait en fait quelque chose même qui serait à côté des rendez-vous 4C. Ce serait des petits rendez-vous ponctuels où des personnes bah, pourraient tout simplement voilà, se donner rendez-vous et en fait s'approprier cet espace-là comme leur espace. Ça, c'est vraiment un enjeu aussi bah, à grande échelle des champs libres. C'est vraiment qu'il y ait une appropriation davantage des espaces par les publics. Et ça, c'est également facilité par la gratuité qui a été accordée à la bibliothèque donc pour l'abonnement et la gratuité du musée de Bretagne depuis octobre dernier. Donc ça, ça facilite beaucoup notre démarche. Et puis, dernier impact, en fait, c'est que bah, on est aussi sollicité en tant que coordinateur 4C, en fait, en tant que facilitateur, à accompagner les équipes d'accueil des champs libres, à adopter bah, une démarche plus de facilitation que de simple information des usagers. Aller davantage au-devant des publics, mais pas tant pour bah, justement répondre à juste leurs questions autour de la programmation, mais peut-être à aller plus vers eux et à répondre davantage à des demandes spécifiques, à les accompagner et voilà, adopter une démarche différente que simplement... débiter un petit peu bah, ici on fait ci et voilà, déverser un peu plus la programmation très importante qu'il y a au champ libre.
Oui, alors merci merci Mélissa. Pendant que vous parliez, je me disais que si Pascal Desfarges nous écoute, il doit être très très heureux d'entendre parler de cette place parce que ça fait vraiment ça rentre complètement en résonance avec son idée de place civique hein, de la bibliothèque et je trouve ça tout à fait intéressant. Vous avez parlé aussi d'appropriation de l'espace et du coup, c'est l'occasion que je revienne sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qu'il a encore que je mets en relation avec les interventions de Vincent Béchambre et de Pascal Desfarges sur l'appropriation, mais cette fois plutôt des savoirs. Vous avez parlé donc de la manière dont les participants participent au rendez-vous 4C, ou Sophie, par exemple, vous avez parlé de comment vous avez construit vos projets en interrogeant les usagers, mais dans quelle mesure, en fait, ces projets produisent des savoirs, sont accompagnés documentairement par la bibliothèque, produisent du bien commun? Est-ce que, y compris au niveau des rendez-vous 4C, par exemple, est-ce qu'il y a des savoirs qui sont produits par ces groupes qui sont réinvestis, je dirais, dans la bibliothèque Comment se passe un peu cette circulation des savoirs, ce réseau des savoirs dans vos projets? Sophie, je me suis coupée le micro toute seule. Sophie, peut-être pour commencer, je ne sais pas.
Oui, alors sur la documentation, alors nous déjà, on utilise effectivement notre blog pour communiquer, faire des retours d'expérience parce qu'on pense que c'est très important. Par rapport à nos usagers, on compte bien sûr faire un retour à un moment donné sur nos propositions parce que d'autant plus que ça va les impacter dans les services. On a un distributeur de café, on voudrait le remplacer par une machine à café. Donc il y a des choses, on va devoir les faire avec eux parce qu'on on est un lieu habité, vivant, avec plusieurs problématiques sociales, culturelles, écologiques. Donc on va associer nos usagers et on va donc nous on documente notre démarche maintenant parce que on pense que c'est important, d'autant plus qu'on est pilote pour la ville, donc d'où la rédaction d'un livret bibliothèque verte, bonne pratique réaliser une bonne pratique qu'on envisage pour demain quand on aura un peu plus de moyens, mais forcément il y a un moment donné aussi où on va se tourner vers nos responsables, mais aussi vers nos, donc moi je vais animer pas mal de réunions de secteur prochainement, mais on va aussi se tourner vers nos usagers parce que il faut qu'on les associe à cette démarche parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir mettre en place le management environnemental aussi. Enfin, en tout cas, qu'on soit plus respectueux de toutes ces normes ensemble. Mais en tout cas, la documentation, oui, on la fait au fur et à mesure, d'abord parce qu'on a des rapports de stage, parce qu'on a des rapports d'enquête et parce qu'on va les publier pour pouvoir être utile à d'autres acteurs.
Merci beaucoup. Mais est-ce que les groupes produisent des savoirs qui sont réinvestis dans la bibliothèque? Est-ce que ça devient des biens communs, je dirais? On en parlait ce matin.
Oui, bah il y a certaines, certains partages effectivement qui vont être visibles. Donc déjà, aussi rien que le fait que les rendez-vous 4C se déroulent sur place, ils sont visibles en fait des autres usagers qui parfois ponctuellement en fait peuvent venir. Donc là, il y a un partage, on pourrait dire, des rendez-vous avec d'autres usagers qui peut être ponctuel parce que n'importe qui peut participer n'importe quand et il n'y a pas d'inscription ou quoi. Donc, on peut juste venir une fois, deux fois et après ne pas réitérer forcément à la participation à tel ou tel rendez-vous. Mais il y a aussi, par exemple, certains rendez-vous qui sont sollicités. Par exemple, là, je pense à Raincraft, donc, qui, du coup, sur le système de Minecraft, en fait, construit la ville de Rennes, donc voilà, avec des petites briques et invite en fait lors des rendez-vous les usagers qui veulent à construire avec eux cet espace-là. Et par exemple, lors des journées du patrimoine, je crois, de 2019, le musée de Bretagne, lui, proposait en fait une exposition temporaire à cette époque-là sur l'histoire de la ville de Rennes. Et donc, le rendez-vous Rennes-Craft avait été invité en fait à présenter son projet et il était ouvert au public. Et donc, les publics qui venaient pour les journées du patrimoine, qui, il faut savoir, est bien plus large en fait à ce moment-là. Ça va vraiment au-delà que les usagers qui viennent traditionnellement au champ libre pour la bibliothèque ou pour le musée. Il y a une grosse fréquentation des champs libres lors des journées du patrimoine. Donc, en fait, les usagers étaient invités à mettre un casque virtuel et à se balader en fait dans la ville de Rennes à la manière de Minecraft. On a aussi des fois des rendez-vous, là je pense à Goûter en espagnol, qui avait en fait fait sa propre fête des morts dans l'espace des Champs Libres, et du coup bah voilà, il proposait un goûter et tout le monde était invité en fait à participer. Donc là ça permettait vraiment de voir un moment et de partager un moment culturel en fait. Il y a eu aussi un jour où ils avaient accroché une piñata et en fait tout le monde pouvait venir voir ce qui se passait. Et puis on a aussi par exemple un rendez-vous, donc c'est le club de lecture féministe qui a proposé plusieurs fois en fait une sélection de livres coup de cœur qu'elles avaient eu. Donc on avait en fait installé dans l'un des étages de la bibliothèque cette petite sélection. Et on a aussi mis en place, dans le service d'achat des collections, ce groupe en fait de lecture nous a fait des suggestions d'achat. Et donc là, il y a un échange en fait de ressources. Enfin, on a du coup plusieurs documents qu'elles avaient demandés ont été justement achetés pour alimenter leur lecture, ce genre de choses.
Merci beaucoup. Hein. Ce sont de belles manifestations, effectivement, d'échanges et de production de savoir. Alors, il nous reste 4 petites minutes. Alors, peut-être juste une dernière question, d'abord posée à Johanna, mais est-ce que dans les bibliothèques avec lesquelles vous avez mené des entretiens, finalement, les bibliothèques se revendiquent de cette responsabilité sociétale et environnementale? Est-ce qu'elles se qualifient comme engagées, voire comme éthiques? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les bibliothèques ont un engagement assumé sur ces questions-là, voire un engagement spécifique peut-être?
Alors, tout ça c'est une question de terminologie. Je n'ai pas entendu de bibliothécaire me dire que sa bibliothèque était engagée, mais je pense que toutes le sont d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans réussir toujours à mettre les mots dessus. Et je pense que c'est la prochaine étape, justement, c'est de se sentir légitime pour dire qu'on est engagé et qu'on peut mener des actions éthiques. Parce qu'il y en a de toutes sortes, surtout même si on prend toutes les actions qui sont menées sur la science ouverte, dans quelle mesure est-ce que c'est pas déjà un engagement. Tout ça, c'est vraiment une question, je pense, de formalisation et de langage. Et je pense que les bibliothèques gagneraient à mettre ça en avant pour faire participer davantage les publics, pour s'inspirer de leurs attentes et de ce qui peut se passer ailleurs aussi.
Merci beaucoup. Sophie, Mélissa, vous diriez que vos bibliothèques sont engagées? C'est assumé, totalement assumé? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut toujours assumer un engagement environnemental, écologique à tout moment dans une institution publique?
Alors, oui, je pense qu'il y a une forme d'engagement personnel. D'abord, dans mon équipe, c'était vraiment un souhait de chacun de mes collègues de participer à cette expérience, parce qu'en fait, c'est une expérience de réviser ses pratiques et d'imaginer la bibliothèque autrement. Mais est-ce que c'est un engagement politique? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un accompagnement de modification de nos sociétés qu'on perçoit peut-être de manière encore plus accrue parce que les collections qu'on achète sont là pour montrer que ce sont des thèmes absolument indispensables. Peut-être qu'on les voit mieux parce que justement, comme on fait de la médiation autour de toutes ces collections, on se rend compte de ces thématiques qui sont prégnantes, peut-être même avant que ça devienne un phénomène de mode. C'est pourquoi nous, on était engagés dans cette démarche avant même que ça soit inscrit dans la stratégie résiliente de la ville de Paris. C'est un engagement d'abord personnel des acteurs qui composent mon équipe.
Merci Sophie, je pense que ce sera le mot de la fin de notre table ronde. Je note effectivement comme quelque chose de tout à fait pertinent pour nos réflexions à venir sur ces questions de résilience et d'engagement, le croisement, la convergence, pour reprendre des mots qui ont été dits précédemment, entre des des engagements individuels, personnels, mais aussi le dialogue entre des collections, des savoirs qui transitent par les circuits habituels des collections, les désirs, les intérêts des publics, comme on les voit ressortir dans les enquêtes ou dans les rendez-vous cassés typiquement, les politiques publiques, etc. Et ça montre, à mon avis, encore une fois, que la bibliothèque, elle est véritablement au cœur des évolutions, hein, et des transformations des villes. Écoutez, je crois que c'est l'heure, je vais devoir rendre le micro, donc je vous remercie encore toutes les trois d'avoir joué le jeu de cette émission en duplex, et je remercie tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute bienveillante dans cette matinée en général, mais dans cette table ronde tout particulièrement. Et je rends la parole à Mélissa et Guillaume. Merci beaucoup.
Oui, merci Raphaël Bass pour cette table ronde et merci à Sophie Bobet, Mélissa Lalouette et Johanna Ouazani d'avoir accepté notre invitation. C'était un échange très enrichissant et aussi très inspirant, comme l'intégralité des interventions aujourd'hui.